un plaisir d'intervenir dans un cadre aussi historique, ça veut rien dire, dans ce collège irlandais. Voilà, donc oui, c'est des old-fashioned papers. Je ne sais pas si tout le monde en a un. J'attends encore une petite minute. Je ne serai pas très longue. Voilà. Alors, je pense qu'à ce stade de votre préparation pour l'agrégation donc d'anglais, il ne vous aura pas échappé que le sujet de la grande famine est révélateur de ce que tout objet d'histoire est construit. Il est construit par les témoins de l'époque, et après, il est façonné par ceux et celles qui en écrivent l'histoire, et ce, depuis la deuxième moitié du XIXe siècle. Donc, mon propos est ici de vous montrer comment s'est façonnée une histoire qui est indissociable de celle de la Grande Famine. C'est l'histoire de ces 1,5 million d'Irlandais qui quittèrent leur terre natale en l'espace de 6 années. L'histoire de ces migrants irlandais appartient donc pleinement à celle de la Grande Famine, même si la tradition migratoire irlandaise a précédé, bien sûr, les années 45-51. Alors, j'ai intitulé cette communication « Océan d'historiographie », et j'ai repris, c'est un emprunt à un ouvrage de David Fitzpatrick, un très bel ouvrage dont je reparlerai. Vous avez le titre quelque part dans la feuille, mais je le redonnerai tout à l'heure, qui s'appelle donc « Oceans of Consolation, Personal Accounts of Irish Migration to Australia, 1843-1906 ». Et j'ai repris, lui-même prend cette expression dans la lettre d'un migrant parti en Australie, et qui écrit à sa sœur en lui disant « Your letter has been an ocean of consolation ». Alors, j'ai repris cette expression d'océan pour deux raisons. D'abord, parce qu'elle traduit l'océan, cette traversée de l'océan fait partie du voyage qu'implique toute migration, même s'il s'agit de traverser simplement un bras de mer entre l'Irlande et la Grande-Bretagne, ou bien s'il s'agit d'aller jusqu'en Amérique du Nord ou en Australie. Et tout voyage est à la fois physique et matériel, mais c'est aussi un voyage symbolique et culturel. Donc c'est la première raison pour laquelle je voulais reprendre cette expression d'océan. Deuxième raison, l'océan est représentatif finalement d'un océan, d'une masse historiographique sur la question. Par exemple, si vous regardez la question des immigrés irlandais en Amérique du Nord, vous serez face à plusieurs centaines d'ouvrages. La bibliographie est infinie, paraît infinie comme les océans. Et l'objet de propos, donc ce matin, de mon propos, c'est d'essayer de vous aider, pour filer la métaphore maritime, de vous aider à naviguer à vue, donc de vous donner quelques repères, quelques balises pour ne pas se perdre dans cet océan historiographique. Alors je vais commencer, premier point, vous l'avez sur la feuille, par évoquer comment la diaspora irlandaise est devenue objet d'histoire, très brièvement. Et ensuite, on regardera aussi très brièvement la question des sources, pour enfin, ce sera mon troisième point, examiner comment les visages finalement de ces migrants irlandais ont changé depuis les 30-40 dernières années dans l'historiographie. Alors, premier point, la diaspora irlandaise comme objet d'histoire. Alors, la première question qu'on pourrait poser, c'est la question de l'usage du terme « diaspora ». L'historien Donald Atkinson, vous avez la référence sur la feuille, nous rappelle qu'un ouvrage de 1976, qui était publié par des africanistes, Martin Kilson et Robert Rothberg, qui s'appelait African Diaspora, ces auteurs sont parmi les premiers à avoir souligné la force du concept de diaspora appliqué à l'histoire de l'esclavage et de la colonisation. Donc, dans les années 60, finalement, le terme de diaspora est utilisé essentiellement par des africanistes. Et ils trouvent cela intéressant, finalement, de comparer l'exil forcé des Juifs, donc le terme biblique, qui est grec, mais le phénomène biblique et historique pour l'histoire du peuple juif. Et ils le trouvent intéressant d'exporter le concept, en quelque sorte, pour ce qui est des études africaines. Alors, en histoire irlandaise, le terme de diaspora apparaît également dans les années 1970-1980, je vais en reparler. Enda Delaney, je vous avais la référence ici sur la feuille, rappelle en quelque sorte les différentes dimensions de ce qu'est une diaspora. Toutes les diasporas, pour Delaney, partagent un contexte ont en commun pardon, un contexte catastrophique. Alors ici, c'est celui, bien sûr, de la grande famine, catastrophique d'un point de vue économique, social, culturel et humain. Il y a aussi, dans toute diaspora, l'idée d'un mouvement forcé par cette catastrophe. Il y a également une mémoire partagée de l'événement, qu'on peut retrouver dans le phénomène irlandais. Et enfin, l'idée qu'un retour est possible. Et ça, c'est quelque chose qui anime aussi certains des migrants irlandais. On peut noter que le terme de diaspora a fait son entrée dans le discours public irlandais sous la présidence de Mary Robinson. Elle l'inclut dans son discours et elle va aussi se rendre dans différents pays pour célébrer cette diaspora irlandaise. Alors, cela étant dit, il faut un peu se méfier du terme qui a tendance à être banalisé, puisque si on regarde les ouvrages d'histoire en général, ceux qui paraissent depuis les 20, 30, 40 dernières années, le terme de diaspora est appliqué à la diaspora chinoise, à la diaspora coréenne depuis la Seconde Guerre mondiale, etc. etc. Donc, bon, ça peut être un terme un peu fourre-tout, donc à manier un peu avec prudence. Alors, cette remarque liminaire étant posée, la question migratoire pendant la Grande Famine, les migrations qui se sont produites pendant la Grande Famine, est véritablement devenue objet d'histoire à partir des années 60 et elle a connu un véritable essor à partir des années 70. Alors pourquoi un intérêt renouvelé ou accru pour cette question migratoire pendant la Grande Famine et après, dans les années 70, en raison d'un double contexte? Il y a le contexte irlandais qui est celui des Troubles, donc on rentre dans une phase un peu agitée, et une phase qui pose les questions de coexistence entre les communautés en Irlande du Nord. Mais on a également un contexte plus global qu'on rencontre dans les sociétés occidentales, celui de l'émergence d'un droit des minorités, avec tout ce que ce terme peut recouvrir, et le constat de l'avènement de sociétés de plus en plus multiculturelles. Alors, donc la question, c'est comment est-ce qu'on fait vivre les migrants, comment est-ce que les immigrés s'intègrent dans des sociétés multiculturelles. Plus globalement, la dimension transatlantique des migrations irlandaises et la réévaluation du rôle colonial de l'Irlande dans le sillage des post-colonial studies ont contribué, fin des années 70, début des années 80, ont contribué à redynamiser l'étude des migrations irlandaises. Donc voilà, un contexte à la fois un contexte historique et un contexte historiographique qui explique ce nouvel essor dans les années 70. Alors, il est clair que les débats autour de l'importance de la grande famine dans l'histoire générale des migrations irlandaises, ont été aussi nombreux et n'ont pas épargné la question migratoire. Comment interpréter le départ de ces 1,5 million de personnes en l'espace de 6 années? Est-ce qu'on a des continuités dans la tradition migratoire qui précède la famine, ou est-ce que la famine est véritablement une rupture en termes de migration? Donc on a ce schéma continuité-rupture qui est posé également pour les migrations. Alors, dans cette perspective, plusieurs ouvrages, à partir de la fin des années 70, plusieurs ouvrages vont servir de repère, de guide, pour toute une génération d'historiens. Et j'ai sélectionné essentiellement 3 ouvrages, ce ne sont pas les seuls, mais disons que ce sont des ouvrages qui ont compté, et il se trouve qu'ils correspondent en plus à 3 espaces géographiques qui ont été les principaux réceptacles des migrants irlandais. On va voir l'Amérique du Nord, la Grande-Bretagne et l'Australasie. Alors commençons par l'ouvrage, vous l'avez sur la feuille, de Kirby A. Miller, Emigrants and Exiles. Je pense que vous en avez déjà entendu parler. Alors, cet ouvrage qui paraît en 85 et a un grand retentissement pour tous ceux qui étudient les migrations irlandaises et puis dans un public plus général. L'originalité de l'approche de Miller tient à sa méthodologie, puisqu'il a étudié, entre autres, plus de 5000 lettres. Donc, il a retrouvé beaucoup de correspondances, de lettres qui avaient été échangées entre des migrants et leurs familles, donc des migrants en Amérique du Nord, à la fois au Canada, aux États-Unis et leurs familles restées en Irlande. Je dirais que l'originalité de son étude tient aussi à l'ampleur chronologique, puisqu'il prend le phénomène migratoire depuis la fin du XVIIe jusqu'à 1921. Et tout cela entre dans une conception transatlantique des migrations irlandaises. Alors, Mellor, dans cet ouvrage, insiste sur la fabrication d'une identité irlandaise qui est spécifique et qui est façonnée par une expérience, vous l'avez, multiséculaire, pluriséculaire, de l'exil et des migrations. Il note, par exemple, il y a un chapitre qui est entièrement consacré à la Grande Famine dans cet ouvrage, et il note que la Grande Famine provoque la disparition d'une génération entière, quasiment la quasi-disparition d'une génération, puisque un tiers des hommes irlandais qui étaient nés au début des années 1830 meurent dans leur terre natale. Seul un tiers. Donc il y a deux tiers d'une génération d'hommes qui a quitté l'Irlande pendant la Grande Famine. Voilà pour quelques mots, l'originalité de la contribution de Mellor. Deuxième ouvrage important pour tous les historiens qui travaillent la question, pour un public plus large, l'ouvrage de Swift et de Gilley, The Irish in the Victorian City, qui paraît également en 1985. Alors, cet ouvrage est un ouvrage collectif, donc, qui est dirigé par Swift, qui est un historien britannique, et Gilley, qui est spécialiste d'histoire religieuse. L'axe problématique de cet ouvrage est le suivant. C'est celui d'étudier la place des Irlandais dans une Grande-Bretagne urbaine. Donc, il y a une tension dans l'ouvrage qui est le reflet, finalement, d'une immigration qui est partagée entre le désir de se fondre dans la société britannique et la volonté de garder une identité à part. Donc, on a cette double dimension. Au fil de cette problématique, plusieurs auteurs dans l'ouvrage explorent trois axes fondateurs qui seront fondateurs des études sur la question. La dimension sociale et économique du phénomène migratoire irlandais, la pauvreté, la criminalité, la question des emplois, quels emplois trouvent ces migrants venus d'Irlande. La dimension politique, le rapport entre les Irlandais et le Parti libéral, le rapport entre les Irlandais et le futur Parti nationaliste, ainsi que les aspects religieux, la question des sociabilités catholiques et protestantes. Donc voilà pour le second ouvrage qui s'intéresse à l'espace britannique. Troisième ouvrage que j'ai sélectionné ici, celui auquel j'ai fait référence dans l'introduction, celui de Fitzpatrick, Oceans of Consolation, alors qui est lui aussi un travail remarquable, plus tardif, vous l'avez vu, date de 95, au moment du 150e anniversaire de la famine. Donc Fitzpatrick a travaillé sur un corpus de 111 lettres, qui a peut-être a priori pourrait paraître, en tout cas moindre que celui de Mellor. Mais l'originalité de Fitzpatrick, c'est qu'il a refusé de couper ses lettres, donc ce ne sont pas des extraits, il les étudie dans leur intégralité, et il s'efforce, pour ces 111 lettres, de retrouver le contexte à chaque fois, le contexte à la fois des familles qui écrivent et des familles qui reçoivent les lettres. Donc c'est un travail minutieux de reconstitution d'un contexte, et il y a un refus chez Fitzpatrick de plonger dans un certain pathos. Par exemple, il note que dans ces lettres, il n'y a pas d'évocation d'un exil forcé. Donc ce n'est pas inintéressant. Ça change un petit peu le regard sur ces migrations. Alors, en ayant évoqué ces lettres, j'en viens à mon deuxième point, la question des sources. Quelles sources utiliser pour étudier les migrations irlandaises au moment de la Grande Famine et plus tard? On pourrait dire qu'on a deux grands types de sources. On a les sources quantitatives, enfin dites quantitatives plutôt, et des sources qui se rattacheraient à un groupe plus qualitatif. Alors, si on commence par les sources quantitatives, alors ces sources vont être bien exploitées dans les années 70 et 80 dans le sillage de l'histoire quantitative ou des cliometrics, de la cliométrie. Donc, dans le début des années 80, de nombreux historiens vont utiliser et compulser des recensements, des listes de passagers, des listes de pauvres qui recevaient l'assistance financière, etc., etc. Donc tout ce genre de sources est utilisé, est mis, est commenté, est mis aussi en schéma. Par exemple, ça permet bien sûr de comptabiliser l'ampleur du phénomène migratoire. Ça permet aussi une étude assez fine de l'espace occupé par les migrants irlandais dans les lieux où ils émigrent. Donc on a des études sur la ségrégation spatiale ou non, l'existence ou non de Little Islands dans les villes nord-américaines, dans les villes britanniques, etc. Deuxième type de source, qu'on pourrait ranger dans une catégorie plus qualitative, c'est-à-dire ce sont des sources où on ne trouvera pas beaucoup de chiffres, ce sont, il y a bien sûr la presse, mais il y a également les témoignages, et les écrits divers, qui sont ceux des migrants. Alors, le problème, c'est que la grande majorité des migrants pendant l'ère de la famine, la grande majorité des migrants sont pour la plupart analphabètes ou très peu alphabétisés. Donc, finalement, la correspondance, pour ceux qui ont eu la chance de retrouver des lettres, c'est pas toujours forcément représentatif de tous les migrants qui quittèrent l'Irlande à ce moment-là. Alors, comment, ça c'est un problème pour tous les historiens qui s'occupent de l'histoire des migrations, comment redonner une voix finalement à ceux qui sont les sans-voix de l'histoire? Comment les faire parler, comment faire parler ceux qui n'écrivent pas quand ils ne sont plus là pour livrer leur témoignage? Alors, c'est pour ça que j'ai rajouté dans ce petit 2, vous le verrez sur la feuille, un des livres d'Arlette Farge qui s'appelle « Le goût de l'archive », mais elle a écrit de nombreux autres ouvrages et articles. Et Arlette Farge nous rappelle que l'importance de l'utilisation des sources judiciaires, parce que bien souvent, dans les tribunaux et au cours de procès, sont rapportées des paroles qui sont prononcées par ceux justement qui n'ont pas laissé de témoignages écrits. Et c'est vrai que quand on regarde même la presse locale, par exemple, moi je l'ai fait en Écosse, ou pour ceux qui l'ont fait en Grande-Bretagne, plus généralement aux États-Unis, etc., quand vous avez des tribunaux locaux qui siègent, et par exemple un immigrant irlandais est arrêté parce qu'il a volé quelque chose ou pour d'autres raisons, là, il va parler. Et donc là, on a quelque chose, on a une trace écrite de ces migrants qui, par ailleurs, dont on pouvait entendre la parole. Alors, il faut être prudent avec ce genre de sources, bien sûr, comme avec la correspondance, puisque, pour en revenir à la correspondance, David Fitzpatrick rappelle à ses lecteurs que les lettres envoyées par les migrants pouvaient être, je cite, « instrumentalisées », donc je le traduis, « déployant émotion et éloquence en vue de plusieurs objectifs ». Donc il faut toujours être bien sûr prudent, comme avec toutes les sources, il faut avoir une approche critique en histoire et ne pas se laisser emporter par le peu de lettres que l'on a. Troisième et dernier point, qui sont finalement ces migrants? La question des visages du migrant irlandais. Alors pour reprendre l'image de l'océan qui façonne le relief des côtes, soit en lent sablant, soit par érosion maritime, l'image du migrant irlandais chez les historiens a beaucoup évolué depuis les années 70. Et je voudrais vous le montrer très rapidement en évoquant quelques points que j'ai notés dans la feuille. On va commencer par la question de la pauvreté. Donc au début des années 80, si vous ouvrez des ouvrages sur la question des migrations irlandaises, que vous regardez celle des migrations pendant la Grande Famine, ce qui frappe, c'est la description d'une très grande pauvreté chez les migrants irlandais. Et finalement, cela fait écho au texte du XIXe siècle, que vous connaissez peut-être par ailleurs. Je cite par exemple un ouvrage célèbre, celui d'Engels, de Friedrich Engels sur les ouvriers de Manchester, avec son chapitre sur les Irlandais, qui paraît en 1944. Donc dans le sillage finalement d'Engels et d'écrits d'autres observateurs du XIXe, on a une image de migrants en haillons, habitant les quartiers les plus défavorisés des cités industrielles, accomplissant les tâches les plus basses et les plus ingrates et victimes des épidémies comme le choléra et le typhus. Puisqu'il n'y a pas que du choléra en Irlande, il y en a bien sûr, notamment, ça touche fortement la Grande-Bretagne en 47 et en 48. Donc l'Irlandais, c'est cet autre, c'est ce stranger in a strange land, c'est ce marginal, celui qui vit en marge des sociétés d'accueil. Alors, depuis les années 80, je caricature un petit peu ici l'historiographie, ce portrait de migrant pauvre a été fortement nuancé. D'abord, il est à nuancer en fonction des destinations d'accueil. Effectivement, on sait que les plus fortunés des Irlandais se rendent aux États-Unis, puisque c'est le voyage qui coûtait le plus cher. Donc, ceux qui peuvent partir directement aux États-Unis sont les plus aisés des migrants. Par exemple, si on observe pendant l'ère de la Grande Famine, si on regarde les listes de passagers arrivant à New York, on voit qu'il y a toujours une proportion non négligeable d'artisans, donc d'artisans, même parfois qui au pays employaient plusieurs employés, pardon, excusez-moi de la répétition, et d'artisans et de fermiers plus ou moins aisés. Donc ce ne sont pas les plus pauvres qui vont aux États-Unis. Par ailleurs, je pense aux 10 dernières années en historiographie, certains historiens ont mis en évidence des stratégies migratoires. Il y a certains pauvres Irlandais qui vont en fait utiliser aussi les ressources permises par la Poor Law, les dispositions de cette nouvelle Poor Law pour se faire payer une partie du voyage en Amérique du Nord notamment. Et donc, une autre image, finalement, de ces migrants, qui n'est pas celle d'une exclusive pauvreté, surgit depuis les 10-15 dernières années. Deuxième point, la question de la catholicité. Les migrants sont-ils tous des catholiques? Donc, à l'image d'un Paddy catholique quittant les vertes collines de son île natale, s'est substituée celle de la pluralité confessionnelle des migrants. Donc, on sait aujourd'hui, c'est bien documenté, qu'en réalité, et même pendant la Grande Famine, on peut estimer qu'entre un quart et un tiers des migrants irlandais étaient protestants. C'est par exemple une position qu'a défendue Donald Atkinson, et je vous ai remis son ouvrage « Small Differences », qui a étudié la question des migrations irlandaises protestantes pour l'espace nord-américain. Donc, il est très très convaincant dans ce livre qui paraît dès 1988. Alors, ce que les historiens observent, pour ceux qui travaillent aujourd'hui la question, c'est aussi la similarité des profils socio-professionnels des catholiques et des protestants. Il n'y a pas tant de différence que ça entre les catholiques et les protestants qui quittent, d'un point de vue socio-professionnel, qui quittent et qui émigrent pendant l'ère de la Grande Famine. Et d'ailleurs, il y a parfois peu de différence dans le traitement qui leur est réservé dans leur lieu d'accueil. Ça peut, mais là je n'ouvrirai pas ce débat, ça ouvre aussi la question d'une Irishness qui serait indépendante, bien sûr, de toute dimension religieuse. Et ils sont rejetés parfois en tant qu'Irlandais, qu'ils soient protestants ou catholiques. Troisième visage, celui des générations. Puisque les historiens l'ont bien montré, ceux qui travaillent sur la question, il existe une émigration antérieure à la famine, puisqu'on a des migrants qui sont partis avant la Grande Famine. Quand les migrants de l'ère de la Grande Famine arrivent dans les sociétés d'accueil, il y a donc déjà des communautés irlandaises. Donc il y a déjà parfois plusieurs générations qui sont sur place, et ça change le regard, parce que ça va poser aussi la question de l'insertion dans des communautés irlandaises qui sont déjà en place. Ça va poser aussi la question de la revitalisation de sociabilité qui existe déjà. Donc, quand les migrants de la Grande Famine arrivent aux États-Unis, au Canada, en Australasie, en Grande-Bretagne, ça va donner une nouvelle impulsion à des sociétés qui existent parfois déjà. Quatrième visage, la question du genre. Donc, dans les 20 dernières années, l'attention a été renouvelée en ce qui concerne les femmes migrantes pendant l'ère de la famine. Donc, et en plus, la Grande Famine vient quelque peu infléchir le profil des migrants, puisqu'on observe pendant la famine une augmentation du nombre de femmes célibataires qui quittent l'Irlande, une augmentation de femmes célibataires notamment qui quittent les comtés de l'Ouest et du Sud-Ouest. Et ça, c'est un des reflets des changements sociaux induits par la Grande Famine dans la structure sociale. Cinquième visage, celui de la globalité. Alors là, je ne vais pas avoir le temps de m'étendre, donc je vous ai mis quelques références sur cette perspective d'une étude globale et d'une étude comparative et comparatiste des différentes migrations irlandaises. Ça, c'est une des grandes richesses apportées par l'historiographie dans les 20 dernières années, c'est celle d'études comparées et du regard porté sur les migrations comme phénomène global, quelle que soit la société d'accueil. Pour juste une petite remarque, pour l'ouvrage de d'Andy Billenberg qui est indiqué au début, The Irish Diaspora, par exemple, un des chapitres très intéressants s'occupe d'un espace qui a été moins étudié, celui de l'Amérique latine. Il ne faut pas oublier qu'il y a bon nombre de migrants se sont rendus aussi en Amérique latine et notamment en Argentine. Donc, je vais conclure, j'en arrive au terme de ce bref exposé. Alors, après cette très très brève traversée de l'océan historiographique, je dirais qu'il ressort que le migrant irlandais de l'ère de la famine a changé de visage depuis les années 80. D'un homme prolétaire, célibataire, catholique et rejeté, le migrant s'est pluralisé, féminisé, protestantisé et intégré. Si je voulais caricaturer un petit peu les changements de visage. Deuxième remarque, l'infinie variété des visages de ces migrants est aussi tout simplement le reflet de la diversité sociale de la société de départ, la société irlandaise. La migration change la donne pour ceux qui partent, mais n'oublions pas qu'elle change la donne aussi pour ceux qui restent, puisque vous savez que l'émigration a été l'un des safety valve, comme disent les Anglais, un échappatoire, et aussi ça a permis à la société qui restait, à ceux qui restaient en Irlande, de respirer un peu en quelque sorte. Ça a permis d'éviter un certain nombre de problèmes sociaux. Et enfin, dernière remarque, j'insisterai juste quelques indications de pistes historiographiques assez récentes. Il y a des historiens qui s'intéressent, je pense notamment à Eric Richards, qui s'intéressent au phénomène des migrations retour, parce que bien sûr, les migrants partent, mais il y a aussi bon nombre de migrants qui reviennent, parfois pendant l'ère de la Grande Famine, c'est plus rare, ou juste après. Donc il faut aussi voir le phénomène migratoire comme un phénomène à double sens. Et autre piste aussi d'histoire plus récente, l'étude de la contribution des migrants irlandais à la vie politique locale dans les sociétés d'accueil. Alors ça, c'est quelque chose qui est bien connu pour, c'est un phénomène bien connu pour l'Amérique du Nord, mais c'est quelque chose qui est plus récent, par exemple, pour la Grande-Bretagne. Et je vous remercie de votre attention.